Bonjour, mesdames et messieurs. La dernière fois, j'avais déjà commencé avec l'épopée d'Akatou. Cette épopée nous raconte le destin d'un roi d'Anilou, qui était roi d'un royaume au nord de la Beka libanaise, d'un site qui s'appelle aujourd'hui Hermel. Ici, c'est la Beka libanaise, lieu principal Baalbek au nord. Et ici, vous avez... au nord, vous avez ici Hermel, le lieu où se déroulait cette épopée. Danilou n'avait pas un fils héritier, mais après un rêve d'incubation et après une intervention du dieu Baal auprès le dieu El, Danilou recevait un fils nommé Akatou. En plus, j'avais déjà mentionné les circonstances de la grossesse de la reine d'Anatiou, l'épouse du roi d'Anilou. On avait invité les déesses Côte à Rôte pour l'aider à enfanter le fils. Il y avait un grand banquet de cette journée au palais de d'Anilou. Les Côte à Rôte sont les déesses expertes de la grossesse et de l'accouchement. Du reste de cette colonne manque environ 10 lignes. Cela veut dire qu'on peut s'imaginer seulement que les passages suivants de l'épopée racontaient la naissance du dauphin, Akatou, et aussi sa jeunesse. Malheureusement, tout cela est perdu. Quand le texte reprend, Akatou est déjà un jeune homme. Par des raisons que nous ne connaissons pas, le dieu Kotaru Vahasisu, cela veut dire le dieu de l'art et de l'architecture, c'est le dieu forgeron aussi, c'est le dieu qui a créé les armes du dieu Baal avec lesquelles il luttait contre le dieu Yamou, le dieu de la mer, et aussi celui qui a bâti le palais du dieu Baal selon le mythe de Baalou. Ce dieu forgeron qui habite en Crète et en Égypte, il fabrique aussi des armes, cela veut dire un arc et des flèches pour Akatou. Les raisons ne sont pas du tout connues, mais comme fils héritier, comme prince héritier, Akatou a une position privilégiée, donc ses armes de chasse sont fabriquées par Kotaru Vahasisu. Il y a maintenant quelques lignes sur la réception de l'arc qui est racontée dans la manière suivante. Et voici le septième jour, c'est toujours le septième jour avec les péripéties, que Danilou, l'homme de Raphiou, le héros, l'homme d'Arnamou, cela veut dire le roi de Hermel, s'en va siéger en face de la porte, parmi les notables sur l'air. Il juge la cause de la veuve, il dit le droit de l'orphelin. En levant les yeux, il aperçoit, à travers 1000 arpents, 10 000 hectares, l'arrivée de Kotaru. Quand il regarde, il voit la marche rapide de Hasisu, qui apporte l'arc, ainsi qu'une grande quantité de flèches. Ainsi, Danilou, l'homme de Raphiou, alors le héros, l'homme de Arnamou, interpelle à voix haute sa femme. « Écoute, madame d'Anatiou, et c'est la première fois que nous avons son nom, d'Anatiou, peut-être aussi en liaison avec le roi Danilou, mais ce n'est pas du tout clair. » Écoute, madame d'Anatiou, après d'un agneau du troupeau, pour l'appétit de Kotaru Vahasisu, pour l'estomac de Hayanu, aux mains habiles. Hayanu est un épithète du dieu Kotaru Vahasisu, dérivé du sumérien ou akkadien Ea. Le dieu Ea, bien connu en Mésopotamie, était aussi vénéré à Ugarit. Mais là, il est devenu seulement comme épithète du dieu Kotaru Vahasisu dans la forme Hayanu. Et puis, le texte continue, « Nourrit abreuve les dieux » en pluriel. En vérité, il s'agit seulement d'un seul dieu, Kotaru, avec un nom double, Kotaru Vahasisu. Mais dans la poésie, on peut jouer un peu avec ce nom ou avec ce nom double. Donc, ici, nous avons deux dieux, un père de dieux. Nourris abreuve les dieux, serre-les avec honneur, les seigneurs de la Memphis en Égypte, divine toute entière. Madame d'Anatiou obéit, elle apprête un agneau du troupeau pour l'appétit de Kotaru Vahasisu, pour l'estomac de Hayanu aux mains habiles. Une fois arrivé, Kotaro Wakasisu remet l'arc aux mains de Danilou. Sur ses genoux, il dépose les flèches. Alors Madame Danatiu nourrit et abreuve les dieux. Le début de ce passage est particulièrement important. Le roi Danilou siège en face de la porte, cela veut dire sur une place devant le palais, et on peut, si l'on revient au plan du palais royal d'Ougarit que j'avais montré il y a quelque temps, ici, à l'ouest du palais, nous avons ici la soi-disant place royale, ça c'est l'entrée au palais royal d'Ougarit, et il se peut que le jugement effectué par Danilou a eu lieu ici. Et deuxième chose, j'avais expliqué que l'épopée se déroule à Ougarit, Ougarit et l'Eustache, de ces deux épopées royales. Quand le roi a son trône, par exemple ici, entre les deux colonnes, il peut regarder vers l'ouest, et c'est de l'ouest que arrive Kotaro Wakasisu, soit qu'il arrive de Crète, soit qu'il arrive d'Égypte. Et Danilou, maintenant, est assiégé parmi les notables de la ville, il est assis parmi les notables de la ville ou du royaume, et il juge maintenant la cause de la veuve et il dit le droit de l'orphelin. Tout comme le cas du roi Kirta, voici les aspects fondamentaux de l'idéologie royale. Selon Yatsubu, de l'épopée de Kirta, son fils rebelle, Kirta avait négligé de s'occuper des veuves et des orphelins. Il n'était donc plus un roi juste et droit, et par conséquent devait abandonner son trône. Danilou, d'autre part, fait tout pour être le char Mesharim, cela veut dire le roi de la justice. Suite au passage cité ci-avant, Danilou donne l'arc offert par Kotaro Wakasisu aux mains de son fils Akatu, le prince héritier, et il lui commande de présenter les prémices de son gibier à un temple. Quoique le texte soit un peu fragmentaire, on peut là songer au temple de la déesse Anat, la déesse de la chasse à Ougarit. Malheureusement, il manque alors environ 11 lignes de cette colonne et encore les 9 premières lignes de la colonne suivante. Donc, 20 lignes manquent totalement. Ensuite, le jeune héros Akatu entre en conflit avec la déesse Anat. Peut-être qu'il s'agisse de la question du gibier, duquel Akatu aurait dû donner une partie à la déesse ou à son temple, mais il y a encore autre chose qui s'avère plus dangereuse pour le destin d'Akatu. Car la déesse Akatu désire son arc et ses flèches à tout prix. C'est pour cela que Anat promet à Akatu de monde vie au noble Akatu. « Demande vie et je te la donnerai, immortalité et je te l'accorderai. Je te ferai compter les années comme Baal, comme les fils d'elle, tu compteras les mois. » Comme Baal donne assurément la vie aux vivants, l'invite et lui offre à boire, tandis qu'on entonne et chante en manière gracieuse en sa présence, « Moi-même aussi je lui répondrai, lui donnerai la vie au noble Akatu. » Fin de citation. Mais Akatu n'accepte pas cette offre parce que Anat lui offre quelque chose que, après tout, lui appartient déjà en sa qualité de fils héritier du roi. Donc Akatu répond à la déesse « Ne me mens pas aux vierges, car pour un héros, tes mensonges sont des ordures. Qu'est-ce qu'un homme peut obtenir comme destin final ? Que peut trouver un homme comme résultat ultime ? Une coupe de zabzagi. Zabzagi est un emprunt à la langue hittite et désigne une pierre précieuse provenant de l'Anatolie. Une coupe de zabzagi sera vidée sur ma tête, de la chaux sur mon crâne. Moi aussi, je mourrai de la mort de tous, et comme un mortel aussi, je périrai. Je vais ajouter quelque chose. Les arcs sont pour les guerriers. Est-ce aux femmes d'aller à la chasse ? Fin de citation. Avec cette réponse, Akatu reste en deçà de la vérité, puisque pour Akatu, membre de la maison royale, les choses ultimes de l'au-delà ont une nature différente. Il suffira ici de citer l'article déjà mentionné, dont j'avais oublié le titre exact, mais maintenant je le cite exactement, un article bien connu de Theo van den Hout, un savant néerlandais, professeur d'éthitologie à Chicago. Il a écrit sur le sort des rois hittites après leur mort. Cet article porte le titre « Death as a privilege ». C'est écrit en anglais. « Death as a privilege », la mort comme privilège. Et l'article se termine comme suit, ce qui est aussi valable pour le roi contemporain d'Ugarit. Je le cite d'abord en anglais et puis je donne une traduction française. « Seen in this light, the anxiety of the king facing the dark beyond his death is not surprising. » But for him, the stay, that means the stay in the netherworld, may have been of only a very short duration. He had the privilege of royal death. Fin de citation. En français, regardant les aspects négatifs de la mort, la peur du roi devant l'ombre de la mort n'est pas surprenant. Mais pour lui, le séjour dans l'au-delà était peut-être seulement très court. Lui, il avait le privilège d'une mort royale. Fin de citation. Cet article est publié dans un livre avec le titre Hidden Futures, les avenirs cachés, Hidden Futures, Death and Immortality in Ancient Egypt, Anatolia, the Classical, Biblical and Arabic Islamic World, édité par G.M. Bremer, Theo van den Hout, Rolf Peters à Amsterdam en 1994. Après le refus d'Akatu, augmenté d'un offrant affligé à Anat, est-ce aux femmes d'aller à la chasse? Alors Akatu se moque de ses qualifications de chasseuse et elle était la déesse de la chasse à Ugarit. La déesse organise un accident de chasse pendant lequel Akatu est tué avec violence. Tout d'abord, elle organise un groupe d'oiseaux de proie, et je ne suis pas sûr s'il s'agit d'aigles ou de vautours, car le terme est exactement le même. Nacharu en ougaritique, nech en hébreu biblique, c'est à la fois l'aigle, mais aussi le vautour. Donc il est difficile d'en trancher. La Vierge Anat répond, et elle parle déjà au chef de ses meurtriers. Assieds-toi, Yatupanu, ça c'est son nom. Assieds-toi, Yatupanu, et puis quelques lacunes dans notre texte. Je te mettrai dans ma ceinture comme un rapace, dans mon sac comme un oiseau. Quand Akatu s'assiera pour manger, quand le fils de Danilou s'assiera pour prendre le repas, au-dessus de lui planeront les rapaces, une bande d'oiseaux le surveillera. Moi, je planerai parmi les rapaces, au-dessus d'Akatu, et je ferai de toi une arme pour le frapper, deux fois sur le crâne et trois fois au-dessus de l'oreille, pour verser son sang sur ses genoux, comme le fait un criminel, un assassin. Sa vie s'échappera comme un vent, son principe vital comme un crachat, comme une fumée de ses narines. Et puis, quelques lacunes, mais le texte continue avec exactement cet épisode de meurtre. Elle, cela veut dire la déesse Anat, elle prend Yatupanu, elle le met dans sa ceinture comme un rapace, comme un oiseau dans son sac. Quand Akatu s'assied pour manger, quand le fils de Danilou s'assied pour prendre le repas, au-dessus de lui planent les rapaces, une bande d'oiseaux le surveille. Parmi les rapaces, Anat plane au-dessus d'Akatu. Elle fait de Yatupanu une arme pour le frapper, deux fois sur le crâne et trois fois au-dessus de l'oreille, pour verser son sang sur ses genoux, comme le fait un criminel, un assassin. La vie d'Akatu s'est échappée comme un vent, son principe vital comme un crachat. Et ensuite, quelques lacunes, mais le résultat est bien clair, Akatu est assassiné. Pour ce qui est de la chasse, on se demande si la fauconnerie, cela veut dire la chasse à l'aide d'oiseaux de proie, était déjà connue à Ougarit. Notre texte poétique en est le seul témoignage pour Ougarit, mais il y en a plusieurs témoignages de la fauconnerie, en images et en texte, au royaume contemporain des Hittites. Donc, l'art de la fauconnerie peut aussi être accepté pour Ougarit à l'âge du bronze récent. Pour ce qui est de l'iconographie de la déesse Anat, on peut renvoyer à une stèle trouvée auprès du temple de Baal. J'étais trop vite. Cette stèle qui pourrait, cette stèle est anépigraphe, il n'y a pas d'inscription là-dessus. La tête manque, ça c'est le grand problème, pas d'inscription, mais il est clair qu'il s'agit d'une déesse d'Ougarit. On y voit une femme debout, vêtue d'une robe serrée à plis en éventail. Elle porte dans sa droite un signe égyptien. Ici, ce ne sont pas des clés, c'est le signe Ankh ou Ankh. Et dans sa gauche, une lance. Ici, la lance dans sa gauche. La jupe en forme d'aile laisse songer à des plumes véritables et donc à la déesse d'Anat, qui, selon notre épopée, mais aussi selon d'autres textes d'Ougarit, plane au-dessus des hommes, dans ce cas au-dessus d'Akatu, comme un oiseau de proie. Cette stèle a été trouvée à 7 mètres à l'ouest du temple de Baal, dans un sanctuaire provisoire érigé après le tremblement de terre en 1250 avant Jésus-Christ, qui avait gravement endommagé le temple de Baal. J'ai un plan sur moi, ça ici. Ça, c'est le temple de Baal, dont l'inscription à Baal est bien claire à cause de la stèle de Mami et à cause de la stèle du Baal aux foudres. Cette stèle du Baal aux foudres a été trouvée ici, dans un sanctuaire provisoire, et la stèle de la déesse a été trouvée ici, aussi avec un autel. Donc, c'était des cultes à ciel ouvert que l'on pratiquait ici. Jusqu'à la chute d'Ougarit en 1125 avant Jésus-Christ. L'archéologie du temple n'est pas tellement facile. Vous voyez ici, par exemple, fouilles turques ici. C'était des fouilles entre guillemets, ça c'est clair, du 19e siècle et aussi pendant la période de la Première Guerre mondiale. Il y avait des gens qui avaient découvert des objets d'argent et d'or après quelques pluies d'hiver. Donc le gouverneur turc a permis de faire les fouilles, entre guillemets, pour trouver encore des bijoux, des objets d'or et d'argent. Et ces gens ont, en tout cas, ajouté encore quelques destructions à ce temple du dieu Baal et aussi à l'autre temple du dieu El. La conséquence de la mort violente du dauphin est une période de sécheresse au royaume de Danilou. C'est ainsi que Danilou et sa fille Puhatu, dont le nom, je l'avais déjà expliqué, signifie simplement la jeune fille, Puhatu et la jeune fille, c'est un peu étrange d'avoir un nom comme ça, mais peut-être avec la connotation la jeune fille par excellence. Puhatu et Danilou se rendent compte d'une catastrophe à cause de la sécheresse dans le royaume de Danilou. Quand même, Danilou essaie de provoquer la pluie par des moyens magiques. Et à ce moment, les deux, Danilou et Puhatu, ne savent pas encore que Akatu était assassiné par la déesse Anat et ses compagnons. Donc le texte continue. Après, Danilou, l'homme de Raphiou, au nuage conjura. Dans la terrible sécheresse et à la pluie. Que les nuages pleuvent sur les fruits d'été, que la rosée se distille sur le raisin. Fin de citation. Mais, quelques versets après, viennent des messagers avec le message explicite de la mort d'Akatu. Après quelques échecs, le roi Danilou réussit à trouver le corps d'Akatu, enterré entre guillemets dans l'estomac, d'un de ses rapaces, et Danilo annonce qu'il voulait enterrer Akatou dans la fosse des dieux. C'est une citation du cycle de Baal, parce que aussi le dieu Baal, selon ce mythe, le mythe de Baal, a été enterré après sa mort dans la fosse des dieux. Ce dicton se réfère à la sépulture des rois d'Ougarit dans leur palais. Aussi un indice pour le déroulement de l'épopée à Ougarit. Le déroulement concret de l'enterrement d'Akatou nous pose un problème de terminologie parce que le vocabulaire utilisé n'est pas très clair. Il y a un nom de lieu, je revois encore à la carte du bas-champ, il y a un nom de lieu mentionné ici que l'on pourrait lire, c'est pas très clair, que l'on pourrait lire comme Kinneret, dont la prononciation antique n'est pas claire. Kinartou, peut-être quelque chose comme ça. Maintenant, en hébreu moderne, c'est Kinneret, dont le lac de Galilée ou de Tibériade a aussi reçu son nom. Le texte dit alors que Akatou était enterré là, dans un tombeau royal à Kinneret. Dans ce cas, on doit, si c'est vrai, c'est difficile à prouver, dans ce cas, on devrait compter avec une tradition de l'enterrement royal à Kinneret, dont les implications nous restent cachées malgré les fouilles effectuées par les Allemands sur l'autel de Kinneret, spécialement pour ce qui est de l'âge du bronze récent. On n'a pas trouvé soit un palais royal, soit un tombeau royal là. Mais n'oublions pas que Danilo était le roi de Arnamou, situé dans la Beka libanaise. Et la Beka, ici, ça c'est le mont Hermon. Ici, c'est Koumidou, au moyen de la Beka. La Beka commence ici et continue jusqu'au nord. Donc, il y avait peut-être des relations, des reports entre le Beka du nord et la Beka du sud ou la région du lac de Tibériade. Et en outre, sa titulature, comme je l'avais déjà expliqué la dernière fois, l'homme de Raphiou implique une relation avec la région du Bashan, ici à l'est du lac de Tibériade, parce que ce dieu Raphiou a une résidence ici à Ashtartou et une deuxième résidence pour donner des oracles à Edrei, aujourd'hui Dara. Et en outre, on verra encore l'importance des Raphiouma, des guérisseurs, des esprits des rois divinisés d'Ougarit et du Bashan pour la survie de la dynastie du roi Danilou après la mort du prince héritier. Ensuite, le poème décrit la situation de deuil au palais de Danilou. Des géniards entrèrent dans son palais, des pleureuses dans sa demeure. Ceux qui se lacéraient la peau pleurèrent le noble Akatou, versèrent des larmes pour le fils de Danilou, l'homme de Raphiou. Des jours et des mois durant, des mois et des années, jusqu'à la septième année. Comme toujours, septième jour, septième année, septième fois, ça se répète toujours en Kirta et en Akatou. Fin de citation. La septième année marque, comme je l'avais dit, la péripétie, et maintenant Danilo décide de terminer son deuil, et pour cette raison, il chasse les pleureuses de son palais. Maintenant, la sœur d'Akatou, Pouhatou, la jeune fille par excellence, s'offre à venger son frère et donc elle dit, je cite, « Mon père a offert un sacrifice aux dieux. Il a fait monter dans le ciel leur encens, l'encens de l'homme de Arnamou qui va jusqu'aux étoiles. Bénis-moi et je m'en irai béni. Donne-moi la force et je m'en irai fortifié. Je frapperai celui qui a frappé mon frère, je détruirai celui qui a détruit la progéniture de ma famille. » Puis Danilo bénit sa fille et elle se prépare à la lutte contre les meurtriers de son frère. Elle revêt l'habit d'un héros, elle place le couteau à sa portée, elle place l'épée dans son fourreau et par-dessus elle revêt un habit de femme. Fin de citation. Le texte suivant est un peu fragmentaire, nous raconte qu'elle entre, Pouhatou, qu'elle entre dans les tentes de Yatupanu et de ses copains qui avaient tué son frère. Les gens de Yattupanu confondent Puratu avec la déesse Anat, et c'est pour cela que Puratu peut facilement avoir accès à Yattupanu. Puratu accepte 2 verres de vin, et malheureusement, après, il manque quelques lignes du reste de la tablette. Le récit de l'exécution de la vengeance n'est pas conservé. Quand même, comme le cas de Kirta, il est clair, et ça c'est déjà la fin de la troisième tablette de l'épopée d'Akatu, comme dans le cas de Kirta, il est bien clair que cela ne peut pas avoir été la fin de l'épopée. À première vue, la dernière tablette d'Akatu semble manquer, et on lit ça toujours dans les articles et dans les livres sur la poésie d'Ougarit. Mais on se pose depuis longtemps la question si les textes dits Rafi Uma, ou dans la traduction moderne on dit les Refaïm, cela veut dire les textes qui traitent des esprits des rois décédés et divinisés d'Ougarit, les guérisseurs, les textes Rafi Uma, pourrait contenir les fragments de la dernière tablette du cycle d'Akatu. Malheureusement, ces textes sont très très fragmentaires. C'est absolument fragmentaire ce qui est conservé, donc aussi la transcription et la traduction sont déjà des défis. Mais il y a quelques années, Meinder Dijkstra, je l'avais déjà mentionné la dernière fois, Meinder Dijkstra, un collègue néerlandais, a voté en faveur d'une telle solution en se basant sur le contenu de ces textes, parce qu'ici aussi Danilo est mentionné, aussi un fils ou un petit-fils, ça c'est difficile à décider. Et dernièrement, Dennis Pardy de Chicago a réussi à démontrer par des raisons épigraphiques que les textes dits Rafi Uma appartiennent à une seule tablette qui laisse entrevoir l'écriture très très fine, ici et ici, l'écriture très très fine du scribe Ilimilku, l'auteur des tablettes de l'épopée de Kirta et aussi d'Akatu. Donc nous avons une petite impression du dénouement heureux de l'épopée d'Akatu. Quoiqu'il ne soit pas facile de lire les textes dits Rafi Uma, on peut comprendre la séquence suivante. Le dieu El invite les Rafi Uma, les esprits des rois décédés, à un banquet qui se tient dans sa maison dans la montagne du Liban. Cela veut dire que le dieu El avait plusieurs palais à sa disposition. Un de ces palais était soit sur l'Hermon, soit sur le mont Liban, ce n'est pas clair des textes. Et il invite les Rafi Uma de Ashtartu ou de Edrei à un banquet dans son palais. Voici qu'un premier jour, un deuxième, les Rafi Uma mangent, ils boivent, un troisième jour, un quatrième jour, un cinquième, un sixième jour, les Rafi Uma mangent, ils boivent dans la salle de festin, au sommet, au repli, au sein du Liban. Puis, au septième de ces jours, comme toujours le septième des jours, en ce moment, Alianu Baal. Maintenant arrive le dieu Baal, mais il manque quelques lignes. Et après ce banquet, les Rafi Uma sont invités aussi à la résidence de Danilu, cela veut dire au nord de la Beka, à Hermel. Et Danilu invite les Rafi Uma et il leur dit « Allez à ma maison, au Rafi Uma, dans ma maison je vous convoque. Je vous invite, ô Dieu, dans mon palais, que vers cet endroit les Rafi Uma se lèvent, que vers cet endroit les êtres divins se lèvent. Ils harnachent leurs chars, ils attellent leurs chevaux, certains montent sur leurs chars, d'autres s'en vont à Dodan. Ils voyagent un jour, un deuxième, après, au coucher du soleil, le troisième jour, les Rafi Uma arrivent sur les airs, les dieux arrivent à la plantation. Danilu, l'homme de Rafiu, répond, le héros, l'homme d'Arnam, prend la parole. Et maintenant, manque quelques lignes. Mais, quoique les textes dits, les Rafi Uma, sont très fragmentaires, il paraît que Danilu reçut de nouveau un fils héritier. Les conditions précises de cette naissance restent en tout cas obscures. Est-ce que Akatu avait engendré un fils avant sa mort? Donc, est-ce qu'il avait une épouse qui n'est pas mentionné dans nos textes, mais il y a toujours des lacunes dans nos textes, ça se peut. Donc ça serait le petit-fils de Dan Ilou qui pourrait continuer la lignée. Ou bien, moins hypothétique, est-ce que Dan Ilou et Dan Atiou, qui vivaient encore, avaient obtenu un deuxième fils à l'aide des Raphiouma, un fils qui pourrait remplacer son frère aîné. Il ne faut pas oublier que Raphiouma signifie les guérisseurs, et en ce cas, les Raphiouma auraient guéri Dan Ilou et Dan Atiou de leur vie sans progéniture. Et le nom Dan Ilou, j'en avais parlé la dernière fois, signifie « elle où Dieu a rendu justice ». Donc, ce nom aussi promet quelque chose de positif. Ça, ce sont déjà les textes des Raphiouma. Il y a peu de choses, mais quand même, ils sont très importants pour comprendre la fin du cycle d'Akatou. Maintenant, j'arrive à quelques conclusions. Permettez-moi de présenter d'abord une comparaison des deux épopées royales, l'épopée de Kirta et d'Akatou. Cette comparaison révélera avant tout un aspect important, l'aspect central. Les deux épopées traitent le même sujet, cela veut dire il s'agit du roi et du prince héritier. Et donc, ce qui n'est pas étonnant, les constellations dramatiques sont à peu près les mêmes. Commençons d'abord avec les constellations. Le point de départ des deux épopées est à peu près identique. Il y a deux rois, étrangers, pas rois d'Ougarit, quoique le drame se déroule à Ougarit, deux rois étrangers, Kirta, du nord de la Mésopotamie, de Bitrebourg, et Dan Ilou, du nord de la Béka, qui n'ont pas d'héritier pour le trône. C'est pourquoi la continuité de la dynastie et de la royauté même est gravement menacée. Un deuxième aspect comparable est le fait que grâce aux dieux El et Baal, l'épouse royale, Huria ou Danatiu, donne naissance à une progéniture royale et avant tout un prince héritier. Jusqu'ici, tout va bien. Troisième aspect, il est frappant que les deux princes héritiers, Yatsubu et Akatou, Yatsubu de l'épopée de Kirta, Akatou de l'épopée appelée selon lui Akatou aussi, les deux n'obéissent pas aux ordres de la sagesse. Yatsubu s'émeut contre son père Kirta et Akatou se moque de la déesse Anat. Dès lors, les deux princes héritiers représentent des menaces contre l'ordre cosmique dont ils sont responsables en tant que roi futur. En conséquence, ils sont voués à la mort. Par contraste, leur père, Kirta et Dan Ilou, sont des rois exemplaires, Charm et Charim, qui respectent l'ordre divin du monde et qui bénéficient constamment du soutien des grandes divinités d'Ougarit, spécialement du dieu El et du dieu Baal. Quatrième aspect, on sera bien avisé de ne pas oublier les rôles des sœurs. Dans l'épopée de Kirta, il s'agit de la fille cadette Titmanatu, aussi traduit comme Octavie, entre guillemets, à l'égard de laquelle le dieu El avait promis d'en faire l'aînée. C'est peut-être elle qui, après tout, aura sauvé la dynastie, mais malheureusement, la quatrième tablette de l'épopée de Kirta manque et on ne peut pas en être sûr. Dans l'épopée d'Akatou, c'est la fille Puhatu qui est sortie pour venger son frère tué. Peut-être elle aura aussi remporté une victoire sur les meurtriers de son frère. Venons au cinquième aspect. Il faut encore mentionner le rôle des divinités dans les deux épopées. Les grands dieux El et Baal soutiennent les rois Kirta et Dan Ilou et comme cela aussi l'institution de la royauté. D'autre part, il y a les grandes déesses, Afiratu, dans le cycle de Kirta, pas mentionné dans l'épopée d'Akatou, et Anat. À cause de sa colère, parce que Kirta n'avait pas rempli son vœu qu'il a promis à la déesse Atheratu. La déesse Atheratu était devenue fâcheuse et c'était elle qui était responsable de la maladie mortelle du roi Kirta. De même, la déesse Anat, qui avait été offensée par le jeune Akatu, organisait la mort de ce dernier. Et encore un dernier point, la fin respective des épopées se ressemble à cause de l'espoir renouvelé d'un avenir pour la dynastie. Pour le cas de Kirta, il reste le grand problème, comme je l'avais déjà dit, de l'absence complète de la dernière tablette de l'épopée. Donc, tout raisonnement sur l'issue heureuse de l'épopée de Kirta reste toujours un peu spéculatif, mais quand même, pour ma part, je m'attends à une solution heureuse de l'épopée. En fait, deux raisons me permettent de supposer un tel dénouement heureux tant pour le roi Kirta que pour sa dynastie. J'avais déjà mentionné les raisons inhérentes à l'épopée, à savoir les deux promesses du dieu El qui veillera à ce que Kirta ait un destin après sa mort, tu seras grand parmi les Raphiouma de l'au-delà, et pour ce but, il faut avoir un fils héritier qui s'occupe des Raphiouma. Et en outre, il avait promis de promouvoir la fille cadette au rang d'aînée. Comme tout cela n'est pas réalisé dans les trois tablettes existantes, il est fort probable qu'il y avait une quatrième tablette avec justement les événements prédits par le dieu El. Une autre raison pour présumer un dénouement heureux consiste dans le caractère didactique de l'œuvre qui était conçue pour éduquer les princes de la cour royale d'Ugarit. Il n'est guère pensable qu'une telle œuvre ait pu être close sur une vision négative de la dynastie du roi Kirta, qui avait, après tout, été un serviteur loyal des grands dieux d'Ugarit, notamment des dieux El et Baal, les protecteurs de la royauté et du royaume. Le cas de la fin de la deuxième épopée, l'épopée d'Akatu, s'est avéré moins difficile à cause des textes des Raphiouma. Ces textes, quoique très fragmentaires, nous révèlent qu'il y avait en fin de compte un fils ou un petit-fils pour le roi Dan-Ilu et qu'ainsi il y avait un avenir pour sa dynastie. On a déjà parlé assez sur les êtres humains, reste donc encore à parler sur la royauté comme institution. Nous avons vu que les péchés des princes héritiers les empêchent de devenir rois, ce qui donne l'impression que leurs pères, les rois, restent sans héritier sur le trône, ce qui signifierait la fin de la dynastie. Mais quand même, grâce aux dieux et les Baals, il y avait un avenir pour la royauté. Pour ce qui est des êtres humains, des rois, d'une part, et de l'institution de la royauté, d'autre part, Ernst Kantorowicz, vous le connaîtrez de nom en tout cas, et je vous le montre le titre de son livre bien fameux, Ernst Kantorowicz a écrit dans les années 50 dirigé un livre avec le titre The King's Two Bodies, aussi traduit en français, Les deux corps du roi. Et dans ce livre, Ernst Kantorowicz a dirigé notre attention sur le phénomène des deux corps du roi. Cela veut dire qu'il s'agit de la différence entre le titulaire, qui est humain et mortel, et l'institution de la royauté, qui est éternelle. Le sous-titre « A study in medieval political theology », donc il a travaillé sur le Moyen-Âge, mais il dit plusieurs fois dans son livre que ce sujet était déjà connu à l'Ancien Orient, les racines sont à l'Ancien Orient, et c'est pour cela qu'une de mes doctorantes a préparé une HDR sur ce sujet, en allemand, malheureusement pour vous, Die zwei Körper des Königs, les deux corps du roi, dans les civilisations west-sémitiques. Et elle commence à Ugarit, continue avec les Araméens, la Phénicie, les Ammonites à l'est du Jourdain, Moab et Israël et Juda. Environ 400 pages sur ce sujet, à partir des inscriptions, des textes poétiques et aussi à partir de l'archéologie et de l'iconographie. À la fin de ces conférences, il faut se poser la question À quel but les épopées royales d'Ougarit ont servi? Dans l'introduction, j'avais déjà mentionné qu'il est Milko était aussi bien un homme politique ou un écrivain engagé. Et il faut donc, comme Aaron Tugendhat, que j'avais cité dans la première conférence, a bien démontré pour le cas du cycle de Baal, lire l'œuvre d'Ili Milku dans le contexte de la politique ougaritaine de l'âge du bronze récent. Les trois grandes pièces poétiques d'Ili Milku, le cycle de Baal, l'épopée de Kirta et l'épopée d'Akatou, ne sont pas seulement des contes pour entretenir un public savant, on n'avait pas de cinéma ou des choses comme ça, c'était des textes politiques adressés au roi et à la cour royale. D'autre part, il ne faut pas exagérer cette vue politique comme l'on a parfois fait de nos jours. On a souvent songé à des circonstances très actuelles à l'époque d'Ili Milku. Cela veut dire à les problèmes tenant à la légitimité de la royauté ou à des enjeux de la politique du royaume ougarite à cette époque. Tout cela me semble peu probable. À mon avis, les deux épopées royales d'Ougarit poursuivent plutôt un but pédagogique. Pour le cas de l'épopée d'Akatou, Jean-Marie Husser de Strasbourg a correctement souligné que cette épopée appartient au genre des récits éducatifs. Mais de quelle éducation s'agit-il exactement? Un texte qui s'occupe des vicissitudes de la famille royale, spécialement sur les aspects du manque de progéniture et de la mort soudaine du dauphin, aura son « Sitz im Leben » dans l'éducation des membres de la famille royale et, en ce cas, des membres de la famille royale d'Ougarit au bronze récent. Ougarit n'était en effet pas, encore le dernier livre, n'était pas en effet pas le seul cas pour une telle littérature. En 2015, le savant israélite Amir Gilan, qui a fait ses études en Allemagne, a publié un livre intitulé Formen und Inhalte, Formen et Contenu, altethitischer historischer Literatur, de la littérature vieille hittite. Formen et Contenu de la littérature vieille hittite. Dans ce livre, il montre d'une façon très convaincante, et il n'a plus de texte à sa disposition, comme nous à Ougarit, il montre d'une façon très convaincante que cette littérature hittite était écrite pour l'éducation des princes et d'autres membres de la cour royale, aussi pour les fonctionnaires de l'administration et pour l'enseignement des rois futurs. C'est avec ces remarques bibliographiques que je termine mon interprétation des textes choisis des deux épopées royales d'Ougarit. Je vous remercie cordialement de votre attention et j'espère vous avoir donné une petite impression de la littérature ouest-sémitique syrische. Merci bien.